Voilà. Donc, nous sommes dans le chapitre intitulé « Les propriétés essentielles de la Sainte Messe ». J'avais commencé la fois dernière le premier point, à exposer le premier point intitulé « L'unité organique de la Messe dans la relation de son essence aux propriétés ». Et j'avais montré donc que l'essence de la Sainte Messe était intimement liée à ses propriétés essentielles et qui en découlaient. Ensuite, donc, on va continuer ce point et je vais l'illustrer à partir d'un texte tiré donc que je vous ai distribué, hein, un texte tiré du Concile Sacrosanctum Concilium, qui est le texte du Concile abordant la liturgie. Alors, l'extrait que je vous propose donc d'analyser est tiré du numéro 47 de cette constitution sur la liturgie. C'est en fait un extrait qui est tiré du chapitre 2e. En effet, dans le chapitre 1er, la constitution sur la liturgie expose les règles en général et les principes généraux de la réforme de la liturgie. Et après avoir exposé donc ces principes, il passe donc au chapitre second à l'exposé de la Sainte Messe, de l'Eucharistie. Et le texte que je vous propose donc est le début de ce chapitre. Alors on va le lire ensemble. Alors c'est un texte qui a été très travaillé, donc assez dense, et c'est pour ça que c'est un texte assez représentatif de l'esprit de la liturgie, donc tel qu'il transparaît dans les débats du Concile. Donc on va le lire. « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, par lequel il perpétuerait le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre confierait à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. » Vous venez de la messe ?
Oui, bien.
Terminé. Les autres vont...
Il y a d'autres personnes
qui vont arriver.
Oui.
Bon.
Ça, c'est le texte que je viens de lire, que je vais analyser.
Donc c'est un texte tiré donc du Concile. Hein. Alors c'est le texte introductif du chapitre traitant de la messe. Alors le premier terme de ce texte, c'est notre Sauveur. Par cette expression, en fait, notre Sauveur, on a véritablement le titre de ce texte, qui résume bien, en fin de compte, l'objet de ce paragraphe, où tout le reste est contenu dans ce titre. En effet, ce texte donc nous parle de la Sainte Messe, et donc il nous dit donc que la Sainte Messe, en fait, est l'œuvre de notre Sauveur. Et c'est en tant que Jésus, donc la deuxième personne de la Trinité, est venu nous sauver, qu'il nous a donné donc la Sainte Messe. Le titre « Notre Sauveur », c'est un peu comme dans la prière du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, tout est contenu, déjà, dans les deux premiers mots « Notre Père ». Et c'est en tant que donc Dieu est notre Père que tout le reste, en fait, en découle. Et là, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est en tant que Jésus est notre sauveur que tout le reste nous est donné. La Sainte Messe nous est donnée. Alors, ensuite, donc, on va expliciter donc ce mot « sauveur ». Et d'abord, sous la forme de trois définitions qui nous sont données par le Concile. Donc, ces trois définitions donc, qui vont définir la messe, en laquelle donc, le salut nous est donné. Et la messe n'a de sens parce que en elle, le salut nous est donné. Parce que c'est en elle que le Sauveur agit et qu'il est notre Sauveur. Il vient nous sauver à travers la messe. Alors, le premier élément du paragraphe qui nous intéresse, c'est « à la dernière scène, la nuit où il était livré ». Alors, la nuit où il était, donc à la dernière scène, donc là, la nuit où il était livré, là nous avons donc le cadre historique de la messe, et qui aussi se présente comme une définition, car elle met directement en relation la Sainte Cène, avec sa passion. Or, quand je vous ai présenté, en fin de compte, les textes liturgiques, en particulier donc de l'Évangile, je vous ai bien expliqué en fait que en fait ce qui caractérise la scène que le Christ a célébrée, donc cette dernière Pâque légitime célébrée, c'est que il la met directement en relation avec le Golgotha. Et c'est ce Golgotha en fait, c'est le sacrifice de la croix qui donne tout le sens à cette scène. Donc à travers donc la Donc, à travers donc, la scène, qui est l'élément donc, matériel de cette première messe, et puis éclairé donc, par la passion, nous avons donc tout le sens de cette première scène, en tant que, donc, qu'elle représente de façon anticipée donc, la passion, et en ce sens, donc, elle est la première messe. Ensuite, institua donc, le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang. Alors, de nouveau, nous avons donc une définition, en fait, quasiment de la messe, mais avec un caractère non plus historique, mais plutôt donc théologique. En effet, donc c'est cet élément de la phrase donc met en relation d'une part le sacrifice eucharistique et puis d'autre part le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc il nous explicite en fin de compte le sacrifice eucharistique parce qu'en fait eucharistique ça veut dire d'action de grâce et donc un sacrifice eucharistique ça peut être en fait, en tant qu'un sacrifice d'action de grâce, ça peut être une prière, d'accord, de façon générale. Et donc, ensuite, donc, il explicite donc le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, et donc il met directement donc en relation avec la double consécration du corps et du sang du Christ, qui est en fait, donc le propre de la Sainte Messe et donc il explicite donc en disant que ce sacrifice donc est celui donc de la double consécration du corps et du sang qui est en fait le sacrifice sacramentel réalisé. Donc là aussi nous avons donc une définition. Voilà, hein, donc il met donc bien en valeur donc l'élément matériel primordial, voilà, hein, la prière eucharistique donc qui est donc vu dans une perspective donc, par rapport à la double consécration, donc comme un sacrifice, perpétuant plutôt réellement le sacrifice de la croix. Et puis ensuite, le troisième élément, donc, il perpétuerait le sacrifice de la croix au long des siècles. Jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, il y a donc deux éléments dans ce que je viens de vous lire là, bien distincts. D'une part, il perpétuerait au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, qui dans le texte latin ne fait qu'un seul bloc, même si dans la traduction il a été séparé avec le mot sacrifice de la croix. Mais en fait, dans le latin, vous avez d'un seul bloc, il perpétuerait au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, et puis après, le sacrifice de la croix. Donc le premier bloc, donc, c'est il perpétuerait au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne. Là, vous avez en fait l'exposition de ce qu'est un sacrement. Quel est l'objet d'un sacrement ? C'est de rendre présent, à travers le temps, un mystère de Dieu. Hein ? Donc c'est de diffuser dans l'horizontalité du temps un mystère de Dieu donc, qui, lui, est vertical, et donc qui est réalisé donc, pour le cas du sacrifice de la messe, une fois pour toutes. Donc vous avez donc dans ce premier élément donc, la définition du sacrement, qui est, comme nous l'avons vu, le sacrement, le genre prochain de la messe, d'accord, vous vous souvenez, hein ? Et puis ensuite, avec le sacrifice de la croix, vous avez donc là exposé la différence, spécifique, vous vous souvenez ? Et donc, vous avez donc là aussi une définition de la messe, d'accord ? Vous retrouvez ? Bon. Je reprends des éléments précédents, hein, et puis donc, voilà. Et donc à travers donc c'est dans cet élément de phrase donc vous avez donc comme une quasi définition. Alors ce qui est à remarquer donc vous avez comme trois définitions qui se succèdent. Alors ce qu'il faut remarquer donc c'est que la définition donc de la Sainte Messe qui est, comme vous vous souvenez, donc, le sacrement du sacrifice de la croix, aussi bizarrement que cela puisse paraître, donc, le mot sacrement n'est pas explicité, en fait, dans ce que je viens de vous citer. En fait, hein. Mais on a des éléments qui suggèrent donc, la notion de sacrement. Mais par contre, Donc c'est pour ça que donc, je parle de quasi-définition, en fait, hein, qui se complètent l'une l'autre. Par contre, le mot sacrement apparaîtra dans la deuxième partie du texte que nous analyserons ensuite, et qui, elle, parle des propriétés, en fait, de la Sainte Messe. Et là, on le verra tout à l'heure, en fait, en parlant du sacrement de l'amour, en fait, hein, le pietatis en latin. Donc, bien sûr, on peut regretter de ne pas avoir une exposition claire, explicite de la définition de la messe, hein, telle que je vous en ai parlé, mais seulement des approches de définition qui se complètent l'une l'autre et qui font apparaître, comme en filigrane, donc dans ce texte, donc ce qui, en fait, aurait dû être explicité. Alors, si on analyse aussi ces différents éléments, on voit donc que le genre prochain, et c'est le genre précédent, le mot sacrement, qui vous souvenez, d'après le tableau que je vous ai distribué la fois dernière, le sacrement, donc, c'est la prière officielle de l'Église et de droit divin, vous vous souvenez, hein, sur le tableau, hein. Alors, le mot prière, en fait, est exprimé par le terme sacrifice eucharistique, puisque un sacrifice eucharistique, comme je vous disais, l'Eucharistie, en fait, c'est action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce, en fait, ben c'est une prière en général. Toute prière en général, en tant qu'elle rend grâce, est un sacrifice, en fait, spirituel d'action de grâce. Donc, le mot prière, donc, est exprimé par ce terme. Donc, prière officielle donc de l'Église est rendu par l'expression « Il confierait à son Église son épouse bien-aimée ». Ensuite, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, donc de droit divin, on retrouve ces éléments dans « Notre Sauveur institua », donc dans la première ligne. Et puis, donc là, vous avez donc toutes les différents éléments donc du genre prochain, donc qu'est le mot sacrement. Et puis, vous avez la différence spécifique dans le mot sacrifice de la croix. Ce qui fait que donc dans ces premières lignes, vous avez donc les différents éléments tels qu'ils ressortent dans le tableau que je vous ai exposé la fois dernière, donc explicitant donc le genre prochain, et puis aussi la différence spécifique. Donc ça reprend donc bien, on retrouve les différents éléments de la définition de la messe. Mais bon, dans un ordre un peu qui est original. Voilà.
M'excuser.
Oui.
Le texte du concile oui. est écrit en latin.
Oui, il est écrit en latin. Enfin, le texte officiel est en latin. Est en latin. Et les autres langues ne sont que notre traduction. En fait, les discussions au concile se faisaient en latin. Hein.
Non,
non, non, non, mais au concile Vatican II, le pape, Jean XXIII a inauguré le concile, il s'est adressé au père du concile en latin. Et les discussions se faisaient en latin. Alors après, je ne sais plus, à partir d'une certaine session, en particulier sous la pression des Américains, on a introduit, en fait, je crois que ça devait être l'anglais, je ne sais plus. Mais normalement, tout se faisait en latin, en fait. Hein. Même dans les commissions, etc., les gens parlaient en latin. Le cardinal Ratzinger parlait en latin au concile. Hein. C'est pour ça qu'il a gardé une certaine aisance, en fait, du latin, en fait. Il le parlait couramment, en fait. Hein. C'est pour ça que le texte de référence est en latin. Alors, ensuite, donc, dans la deuxième partie du texte, à partir donc de « Il confierait à l'Église son épouse hein, », vous voyez, c'est à la fin de la troisième ligne. Là, nous avons la deuxième partie où sont exposées les propriétés essentielles de la Sainte Messe. Alors, qui, dans ce texte, sont au nombre de 7 et qu'on va analyser. Alors, 4 sont tirés, en fait, de l'antienne du Magnificat des secondes vêtements de la fête Dieu, que l'on va donc avoir donc, dans une dizaine de jours, et qui, cet office, donc, qui était composé par saint Thomas d'Aquin. Alors, ces 4 éléments, donc, qui ont été tirés, donc, de cette antienne du Magnificat, sont mémorial de la mort et de la résurrection. En fait, saint Thomas parle de mémorial de la mort, qui est en fait la définition de la messe, puisqu'un mémorial, c'est un sacrement, puisque le mémorial, dans la tradition juive, a pour objet de rendre présent un événement passé et de le réaliser à travers le rite réellement. C'est pour ça que la Pâque était le mémorial donc, de la sortie d'Égypte, et qu'à travers le rite, on réalisait vraiment ce passage, en fait. Hein. Et puis, donc, l'Église va récupérer ça à travers la notion de sacrement, en fait. Hein. Donc, ça, quand on parle de sacrement, donc, de la mort, en fait, là, c'est la définition. Mais là, on utilise mémorial de la mort et de la résurrection. C'est pour ça que, donc, en fait, parce que la résurrection, en fait, est une conséquence et non pas, donc, ne rentre pas dans la définition. C'est pour ça que c'est mis, donc, dans les propriétés. Ensuite, donc, on a donc banquet pascal dans lequel le Christ est reçu. L'âme est comblée de grâce, c'est le troisième. Et puis le quatrième, gage de la gloire future qui nous est donnée. Donc ça, c'est les 4 éléments qui ont été tirés donc, du Magnificat de la fête Dieu. Alors, la première propriété, donc, il confierait à l'Église son épouse bien-aimée. Confier, donc, dans le terme latin, donc, c'est le terme concredere, qui veut dire confier au sens de remettre entre les mains d'eux, et donc rentrer dans une relation de confiance. c'est tout la force du terme credo, hein, qui est à la fois donc je crois en un contenu explicite et puis aussi je fais confiance en Dieu. Donc en arrière-fond, donc il y a toute la notion donc de don de soi. Et la messe donc est vraiment le cadeau nuptial du Christ à son Église, qu'il donne à son Église, qu'il confie à son Église. Nous avons donc là le premier élément fondamental qui va s'expliciter donc dans les autres caractéristiques que je vais exposer donc par la suite. Donc fondamentalement, donc, la messe est un don de Dieu, confié donc par Dieu, par le Christ, à son Église, qui est son épouse bien-aimée. Ensuite, mémorial de la mort et de la résurrection. Alors là, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça renvoie donc au genre prochain, hein, puisque la notion de mémorial donc renvoie à la notion de sacrement, qui lui-même donc renvoie au mystère de la verticalité de Dieu, hein, qui dans son agir donc le diffuse dans le temps, donc dans l'horizontalité. Donc un sacrement donc c'est quelque chose, c'est l'axe Dieu qui agit donc dans sa verticalité, et puis ensuite donc qui à travers le sacrement donc qu'on peut répéter dans le temps, on rend présent donc dans l'horizontalité donc ce mystère de Dieu. Donc le deuxième donc propriété donc de la messe, c'est donc d'être un mémorial. Mémorial donc d'un événement dans lequel Dieu est intervenu. Et donc un mémorial donc de l'intervention d'un mirabilia Dei, donc d'une merveille de Dieu, d'une merveille divine. La troisième propriété donc qui est exposée dans ce texte donc c'est sacrement de l'amour. Le texte en latin, en fait, amour, en fait, c'est pour rendre le mot pietatis, pietas, en latin, donc, qui est plus large, en fait, qui exprime là aussi une relation filiale. Sacrement, donc, de l'amour. L'amour, donc, c'est la définition de quoi ? C'est Saint Jean qui nous le dit. C'est la définition de Dieu, en fait. Hein. Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans son épître, dans l'une de ses épîtres, je crois que c'est la première. En effet, on l'a vu hein, précédemment, c'est que dans la vie trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, c'est l'expression du don et donc de l'amour. Hein. Donc Dieu, dans son essence, est amour. Donc en fait, en parlant de sacrement de l'amour, donc en fait ce que l'on veut dire en fait c'est le sacrement de Dieu, et à travers ça donc on exprime donc la présence réelle de Dieu, d'accord, l'Eucharistie et le sacrement de Dieu, donc le sacrement qui nous montre Dieu et le sacrement de la présence de Dieu dans lequel donc Dieu se rend présent. En effet hein, on sait que à travers les saintes espèces du pain et du vin, Dieu est réellement présent, et c'est pour ça qu'après avoir consommé donc le vin, donc on garde les saintes espèces dans le tabernacle. Donc c'est aussi donc à travers ça donc le fameuse expression donc saint sacrement de l'autel, puisque Dieu est présent donc dans ce sacrement qui est à l'autel, donc qui est dans le tabernacle, qui est donc sur l'autel. Quatrième propriété, donc unité, signe de l'unité et du lien de la charité. En effet, donc la communion fait la communion en fait des âmes. Quand on communie donc à la messe, donc on reçoit donc le Christ qui est un, qui est indivisible et qui fait l'unité des âmes. Donc il fait la communion dans l'Église, qui fait l'Église. Puisque l'Église est un mystère de communion, qui construit l'Église comme peuple organisé hiérarchiquement et charismatiquement, et dans une unité en fait mystérieuse, qui fait que cette unité est indestructible. Alors, si c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, comme on l'a vu donc dans la première caractéristique, puisque la première propriété, je vous ai dit, donc l'Eucharistie était un don de Dieu donc à l'Église. Hein. Donc, si c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église, selon l'expression donc du père Henri, enfin du cardinal Henri de Lubac, hein, qui disait donc l'Église fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église. Expression récupérée aussi par le Concile. Donc l'Église, en effet, se réunit autour de l'Eucharistie. L'Eucharistie convoque et légitime l'assemblée eucharistique du peuple de Dieu, du corps mystique du Christ. La messe, donc, est l'âme de la vie de l'Église. Et c'est pour ça que dans l'Église, on célèbre constamment la messe, tous les jours, et qu'un grand événement ne peut pas se passer sans la célébration de la Sainte Messe. Parce que c'est vraiment l'Eucharistie qui convoque l'Église et qui fait son unité. Elle est vraiment la source de la communion. Cinquième propriété, donc, le banquet pascal dans lequel le Christ est reçu, dans lequel il est mangé. C'est là aussi donc, le mystère donc, de la communion, mais en ce sens de la communion donc, qui fait partie de la messe, et dans lequel le corps du Christ est distribué aux fidèles qui assistent à la messe, et qui fait partie intégrante de la messe, et qui est la fin de la messe. La messe est célébrée, bien sûr, par la double consécration du corps et du sang, et qui réalise le Saint-Sacrifice, la présence du Saint-Sacrifice. Mais la fin, en fin de compte, de la consécration, en fait, c'est la communion. Alors, la communion du prêtre, sous les deux espèces, et la communion des fidèles, sous une seule espèce. Et donc, il n'y a pas de messe sans communion, au moins celle du prêtre, dans une messe privée. Mais, comme nous le verrons, la communion ne définit pas pour autant la messe. Donc la communion donc, apparaît là comme la nourriture de l'âme, nous le verrons tout à l'heure, comme le summum de la prière. Et c'est pour ça qu'à l'origine, la messe était nommée fraction du pain. On l'a déjà vu, hein. On y reviendra. Sixième propriété, l'âme est comblée de grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est la présence de Dieu, mais en tant que Dieu est présent dans l'âme. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la présence réelle à travers les saintes espèces. Là, c'est la présence de Dieu sur l'autel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça donc, le Saint-Sacrement de l'autel. Donc là, il y a la présence réelle donc sur l'autel. Et puis, il y a la présence de Dieu dans les âmes, la présence donc, spirituelle. Ça, c'est la grâce. D'accord ? Donc l'âme est comblée de grâce. La grâce donc réalise le lien dans l'âme avec Dieu. Par la grâce, Dieu est présent dans l'âme. Et donc, en fait, en ce sens, donc, la messe est le summum de la prière, puisque c'est la prière qui réalise le lien de l'âme avec Dieu. Hein, c'est par la prière, on l'avait déjà vu, hein, que ce lien de l'âme spirituelle, que l'âme spirituelle concrètement réalise donc ce lien. Et on avait vu qu'il y a toute une série, différents degrés de prière, puisque la notion de prière est une notion analogique, et je vous avais même dit, dans le dernier cours et l'avant-dernier cours, que la danse des astres dans le ciel, en tant qu'ils font la volonté de Dieu, donc, est une prière, et on sent, en contemplant le spectacle des astres, ou bien même le spectacle d'un paysage, on sent la présence de Dieu, en fait. Hein. Donc la grâce donc, réalise cette présence donc, qui est prière, en fait, se réalise dans la prière. L'Eucharistie, donc, est le summum de la prière, le summum de la vie spirituelle. L'Eucharistie, donc, peut aussi se manifester, donc, nous le verrons, par l'adoration, l'action de grâce, pour le salut qui nous est donné. Et puis, la septième propriété qui est exposée par le Concile, la messe est le gage de la gloire future qui nous est donnée donc, dans l'Eucharistie. Alors là, nous avons toute la dimension eschatologique donc, de la Sainte Messe. Eschatologique, ça veut dire qui concerne les vérités dans l'autre monde, les vérités éternelles telles que nous les retrouverons quand nous passerons ben, de l'autre côté. Tout en ce bas monde donc, n'a de sens que par rapport au ciel. Tout tire sa signification dans leur relation au ciel. D'où l'importance, donc, en ce monde, de rechercher l'essentiel, et donc, là, à travers l'Eucharistie, et tout le reste nous sera donné. Donc, l'Eucharistie, donc, en ce sens, fait le pont entre la vie ici-bas et l'éternité. Et en arrière-fond, donc, nous avons donc, les fameuses noces de l'agneau, donc je vous ai déjà parlé quand nous avons analysé donc, l'Apocalypse, et puis aussi l'importance de la contemplation, qui est déjà donc, ce regard que l'on porte sur la vie éternelle. D'accord ? Alors, on retrouve toutes ces caractéristiques, hein, toutes ces propriétés dans l'Eucharistie, vous voyez donc, et qui sont les conséquences donc, de son essence. Alors, je dirais qu'une analyse plus précise montre que les différents éléments de ce texte entretiennent une relation organique. Le tout est structuré. Tous les éléments donc, de ce texte sont liés organiquement. En effet, tous ces éléments ont pour fin notre salut, qui est justement le titre hein, de ce texte. Donc avec notre Sauveur. Hein. Le point de départ, donc, c'est Jésus Sauveur. Celui-ci, donc, nous communique le salut via la messe. Et donc, nous avons ensuite les trois définitions de la messe qui nous donnent donc la définition de la messe. Donc, le Seigneur nous donne donc le salut via la messe, donc à travers son essence. Et puis, donc, le sacrifice donc, est l'expression donc, dans un monde marqué par le péché originel du don trinitaire, en tant que celui-ci s'exprime ad extra, d'où nous avons donc la première propriété, d'accord, hein, qui est... Il confierait donc à l'Église son épouse bien-aimée. Ça, vous me suivez dans le texte ?
Oui.
D'accord, hein ? D'accord. Et puisque Dieu donc se donne hein, ad intra, il se donne aussi ad extra. Hein, c'est ça. Ce sont les mœurs de Dieu. Donc d'où la première propriété qui va s'expliciter en fait cette double propriété dans un double mouvement, un mouvement descendant dans lequel vous aurez donc les trois premières propriétés suivantes, et puis un mouvement ascendant dans lequel vous aurez les trois dernières propriétés. Alors, je vais vous expliquer. Alors, d'abord, le mouvement descendant, qui va expliquer donc les trois grands mystères chrétiens, que sont, d'une part, la rédemption, et là, donc, c'est explicité dans le mémorial de sa mort et de sa résurrection, d'accord ? C'est bon ? Ensuite, vous avez le sacrement de l'amour, c'est quoi ? Tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quel mystère ? Non, le mystère de l'incarnation, d'accord ? Puisque je vous ai dit, donc le sacrement de l'amour, c'est la présence réelle, vous vous souvenez, hein ? Eh bien, cette présence réelle, donc, continue le mystère de l'incarnation, d'accord ? C'est le deuxième grand mystère, donc, de la foi chrétienne. Et puis ensuite, vous avez donc le troisième mystère qui est exprimé à travers signe de l'unité et de la charité. C'est la transposition sur terre du grand mystère de de la Trinité. D'accord ? D'accord ? Et donc, vous avez, à travers donc, ce mouvement descendant, donc Dieu qui vient vers nous, donc, exprimé donc, à travers ces trois propriétés, les trois grands mystères chrétiens. D'accord ? De la rédemption, de l'incarnation et de la Trinité. Et puis, nous avons les trois dernières propriétés qui expriment le mouvement ascendant, donc qui part du chrétien, banquet pascal, dans lequel le Christ est reçu, donc par sa participation, donc le chrétien, donc par sa communion, donc reçoit le Christ lui-même. Il est comblé de grâce. Donc l'âme est visitée par Dieu, donc pour devenir donc le temple du Saint-Esprit, qui est le royaume des cieux en notre âme, par cette grâce dont il reçoit, hein, donc, d'accord ? Et puis, ceci ben, nous prépare à la vie éternelle, qu'un jour nous connaîtrons réellement, et que déjà, donc, à travers l'Eucharistie, donc, par notre âme qui devient le temple de l'Esprit-Saint, eh ben, déjà, de façon anticipée, est réalisé ce qui se réalisera de l'autre côté lorsque tout sera tout en Dieu, dans la communion des saints. D'accord ? Et donc là, nous avons le mouvement ascendant. Donc vous voyez, ça forme un tout vraiment très structuré. Hein, et à travers ces différentes propriétés, donc vous voyez, qui découlent donc de la définition. Alors de plus, on peut dire que les différentes propriétés s'enchaînent ainsi. De l'union du Christ à son Église, donc, qui est la première propriété, se réalise, donc l'union du Christ à son Église se réalise donc dans le sacrifice de la croix. Donc il y a la deuxième propriété. Et dans sa présence réelle, qui est la troisième propriété, et qui sont, cette présence réelle, la source de la communion dans l'Église, d'accord ? Quatrième propriété. Et de la sanctification des fidèles, propriété suivante, dans le sacrement de l'Eucharistie, qui les rend donc temple de l'Esprit-Saint, donc la propriété suivante, l'âme est comblée de grâce, et dans l'attente de leur intégration à la Jérusalem céleste, fin de la vie donc terrestre, et de Jésus sauveur. Dernière propriété. Vous voyez, il y a un enchaînement de tout ça. Hein, d'accord ? Alors, vous voyez donc ainsi, tel que j'ai analysé ce texte, ça va, vous avez pu suivre. Hein, c'est pour ça que je voulais vous le mettre sous les yeux. Comme ça, ça vous permettait de voir que ça forme un tout bien cohérent. Vous voyez. Ainsi donc, Jésus Sauveur, l'essence de la messe et ses propriétés essentielles forment un tout. Organiquement structuré. Chaque élément a sa place, et c'est le respect de ce tout organique qui définit et caractérise la messe, qui permet d'en avoir une vision authentique et de rentrer dans son mystère, qui est le mystère donc du Saint Sacrifice, d'accord, hein, puisque c'est ça l'essence de la messe, avec en arrière-fond donc le mystère de la kénose du Christ, donc de sa venue sur terre. Donc c'est le Verbe qui se fait chair et qui se donne sur la croix. Donc c'est le mystère de la kénose. Il y a derrière le mystère de la kénose, qu'est-ce que vous avez ? Là, je remonte à un certain nombre de cours. Vous avez le mystère de Dieu lui-même, qui le Père se donne dans le Fils, qui le Fils dans le Père, et les deux dans le Saint-Esprit. Donc et le fondement de tout mystère, oui, d'accord, hein, d'accord. Et donc, c'est quand on pénètre vraiment dans la vérité de la Sainte Messe, telle que je vous ai exposée, donc telle que les éléments organiques sont, qu'on pénètre aussi dans le mystère de la kénose et dans le mystère du Dieu trinitaire. D'accord. Alors, la messe étant le joyau de l'Église, on comprend, hein. Je pense que vous commencez à en être convaincus depuis plusieurs mois, en fait, hein. Étant le joyau de l'Église, en tant que cadeau nuptial du Christ à son épouse, si l'on veut détruire l'Église, c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il faut détruire ? Il faut détruire la Sainte Messe. qui est donc le signe de l'union de l'Église et du Christ. Parce que c'est la messe, comme je le disais tout à l'heure, qui fait l'Église. D'accord, hein? Est-ce qu'on, je ne sais plus quel était le numéro de cette propriété. Hein? Voilà, donc c'est la messe qui fait l'Église. Donc en détruisant la messe, on détruit l'Église. Donc nombre de théologiens donc, s'inscrivant donc, dans le contre-esprit du mouvement liturgique, dont je vous ai déjà un peu parlé, un peu par-ci par-là, mais j'en parlerai beaucoup plus longuement dans une partie suivante, ont essayé donc de faire une présentation de la messe en désarticulant l'harmonie du tout existant entre son essence et ses propriétés. C'est la technique des sophistes pour faire perdre le sens profond d'une réalité en remplaçant l'essence par l'une de ses réalités qui la caractérise, par l'une de ses propriétés. Hein, on en a déjà parlé, ça. Hein. Alors, pour écarter la définition de la messe comme sacrement du sacrifice de la croix, certains liturgistes ont tenté de mettre en avant telle ou telle propriété comme pouvant la définir la messe. C'est ainsi que le père Joseph de Sainte-Marie, qui est un carme, qui était plutôt un carme Deschaux, mort en 1985, et qui a été professeur de théologie à l'université carmélitaine à Rome, donc l'université des Carmes, qui était, bon, en passant, le fils de Louis Salleron, donc qui était quelqu'un de réputé, donc comme catholique traditionnaliste. Donc dans son livre L'Eucharistie salut du monde, donc publié en 1982, donc critiquait justement cette tendance à son époque, hein, dans les années 70-80, cette tendance donc de certains liturgistes à ramener l'essence de la liturgie soit à un repas, soit à une prière d'action de grâce, soit à une assemblée liturgique. Alors, il écrivait la chose suivante. Je vous cite. Hein. Je ne sais plus à quelle page c'est. C'est à la page 374-375. Il écrivait la chose suivante. La première raison donc, de ce rejet, négativement, est l'incapacité des théories examinées précédemment donc, de faire la synthèse des éléments qui composent la divine liturgie, mais aussi d'en montrer la continuité au cours de l'histoire. La première caractéristique, celle du repas, met en effet au centre ce qui ne fut que le cadre historique initial. Donc la Sainte Cène, hein, voilà, on a déjà parlé hein, de ça, hein, et ce qui reste un rite final, la communion. La communion n'est qu'une partie de la messe, elle n'est pas l'ensemble, enfin l'essence de la messe, hein, une partie seulement de la messe, et elle est l'élément matériel, donc, hein, elle est la fin de la messe, mais elle n'est pas l'essence. La seconde caractéristique, donc celle d'une prière de bénédiction, c'est une prière d'action de grâce, aboutit à privilégier la prière et avec elle la parole, au détriment de l'action centrale et essentielle que cette prière a pour fonction d'accompagner et de mettre en valeur, et non pas de remplacer. Et cette action centrale, vous l'avez deviné, hein, c'est la consécration, hein, la double consécration du pain et du vin, le Saint-Sacrifice. Elle ne parvient pas, faute d'avoir dégagé la vraie nature de ce mémorial de l'Eucharistie chrétienne, de l'Eucharistie chrétienne. Elle ne tient pas ou ne pas suffisamment compte de la nature sacramentelle qui fait de lui l'acte mystérieux par lequel l'unique sacrifice rédempteur est actualisé dans et avec et pour l'Église. Donc si vous voulez, en réduisant la messe à une prière, en fait, en effet, c'est une prière la messe, hein, c'est une action de grâce, on rend grâce à Dieu, etc. Mais on met au second plan pourquoi on rend grâce, en fait, et qui est le sacrifice du Sauveur, en fait. Le troisième courant examiné, l'assemblée liturgique, obscurcit encore davantage cette nature sacramentelle du mémorial et aboutit à faire de l'assemblée et d'elle seule non seulement la fin, on se réunit pour se retrouver ensemble, pour prier ensemble, non seulement la fin, mais le principe et le sujet, bref, la substance et le tout de l'eucharistique. Et en effet, n'oublions pas que les protestants se réunissent tous les dimanches, mais ne célèbrent pas la Sainte Cène tous les dimanches, parce que ben, ce n'est pas l'aspect essentiel. L'essentiel, c'est de se réunir autour de la parole de Dieu en particulier. De se réunir, mais pas de célébrer donc, le Saint-Sacrifice de la messe. Voyez, donc quand l'Assemblée est mise au premier plan, qui se réunit donc autour de la parole, eh ben, on aboutit à ce type de déviance. Donc ce qui les fausse radicalement l'une et l'autre à la fois, positivement, donc, notre argument principal est que tout, dans la liturgie, part du sacrifice, y prépare et en découle. Les théories examinées le disent elles-mêmes si on les approfondit. Un repas. Mais quel repas ? Ben, celui du sacrifice de communion. Celui, donc, de la première messe réalisée par notre Sauveur et qui lui-même renvoyait au sacrifice qu'il allait réaliser, puisqu'il le dit, en consacrant ceci est mon sang versé pour vous, qui sera versé pour vous. Il sera versé où ? Donc, sur la croix. Hein. Une action de grâce, donc une beraka, met en l'honneur de quelle intervention admirable de Dieu, si ce n'est le salut réalisé donc, sur la croix, donc celle du sacrifice rédempteur que les mémorials institués par le Christ actualisent dans le sacrement. Une assemblée qui se constitue, mais comment ? Quelle assemblée ? Celle qui forme le corps ecclésial du Christ et que rassemble, édifie et unit dans la louange à Dieu l'esprit que le Christ, par son sacrifice pascal, a mérité de lui envoyer d'auprès du Père et qui lui envoie effectivement dans le sacrifice sacramentel de l'Eucharistie. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui donc convoque l'Assemblée, c'est la célébration donc de la Sainte Eucharistie. Et si dans l'Église, donc à chaque fois donc qu'on veut célébrer quelque chose, qu'on se réunit, ben on le célèbre autour de l'Eucharistie. Le père donc Joseph de Sainte Marie donc conclut la réalité du sacrifice, on le voit, intègre tout ce que les thèses, donc tout ce que les différentes propriétés précédentes contiennent de vérité. C'est donc elle, donc cette notion donc de saint sacrifice, et elle seule qui permet d'en faire la synthèse. D'accord ? Fin de citation. Ça va, il y a des questions, non ? Alors, on va aborder donc la première propriété maintenant. Parce que maintenant, je vais les développer. Hein. Là, ce que j'ai fait donc, dans cette première partie, dans ce premier point, c'est de montrer donc, qu'il y a un lien organique entre l'essence et les propriétés. Ce n'est pas n'importe quelle propriété, mais que ces propriétés ne sont que des propriétés qui viennent expliciter l'essence et qui sont... voilà. Hein. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Et maintenant, on va voir donc, ce qui est l'objet donc, de ce chapitre, les différentes propriétés. Parce que ces propriétés, en effet, ne sont pas négligeables, hein, ce sont très importantes. Et c'est pour ça qu'en en les mettant même trop en valeur, on en arrive à déformer donc, la messe et puis à dévier. Comme le père de... comment il s'appelait ? Joseph de Sainte-Marie donc, nous l'expliquait. D'accord ? Mais elles sont importantes, il ne faut pas les négliger. Alors donc, première propriété, donc, la messe est un don sponsal. Alors là, c'est, comme je vous disais, donc, c'est une caractéristique première qui découle directement de sa définition. Et que donc, fondamentalement, la messe, comme tout sacrement, en tant qu'instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque je vous ai dit, hein, un sacrement, donc c'est quelque chose d'institué par notre Seigneur Jésus-Christ, et donc est un don de Dieu. D'accord, hein, donc ça découle de la définition même du mot sacrement. Hein. Donc pour confier à l'Église son épouse bien-aimée, nous dit le texte, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, donc, la messe donc, est un don de Jésus-Christ. Elle est un don donc, de Dieu elle a un caractère fondamentalement donc divin. Elle est de par sa source de nature divine. Nous avons donc là le premier caractère fondamental donc de la messe et de la sainte liturgie en général, son caractère divin, hautement sacré, sur laquelle donc l'homme n'a donc pas de droit de propriété. La liturgie appartient à Dieu. Il l'a confiée, comme dit le Concile, à son Église. Donc, il en fait comme un don, mais ce n'est pas un don au sens propre où ça appartiendrait et l'Église pourrait en faire ce qu'elle veut. Non, ça reste encore... C'est la propriété de Dieu qu'il confie à l'Église. Donc, c'est hautement sacré. Et c'est pour ça que les Orientaux appellent la messe la divine liturgie. Hein. Il y a quelque chose de divin, c'est divin. Et si on perd ce divin, eh ben on perd la liturgie telle que voulue par Dieu. Nous avons donc ici la caractéristique divine de la messe, son caractère de don de Dieu, caractéristique qui ne définissent pas la liturgie, puisqu'il existe bien d'autres choses qui sont divines sur terre, hein, mais qui sont, ou qui sont des dons de Dieu. Mais ce sont des caractéristiques inséparables de son essence, qui en découlent directement. Alors aussi, ce qui est intéressant à souligner, c'est que la messe, comme je vous le disais, est un don du Christ à son épouse, la Sainte Église catholique. Et donc la messe a une dimension nuptiale. Il y a une dimension nuptiale dans la liturgie. Elle est le cadeau nuptial, le lieu de l'union intime et indissoluble de Jésus-Christ et de son Église. Là où le Christ, c'est-à-dire Dieu, se donne à son épouse, à l'Église. Seule l'Église, donc, est dépositaire du Saint-Sacrifice du Christ. Aucune autre religion n'en a le dépôt. Donc, l'Église est le seul qui puisse, donc, on a reçu le dépôt, donc on est responsable, et ce dépôt, cette messe, donc, étant le seul sacrifice qui puisse plaire à Dieu, donc l'Église donc exerce réellement le sacrifice qui plaît à Dieu. Elle seule donc peut en exposer toute la théologie, tous les rites et les réaliser. D'accord ? Parce que l'Église donc c'est le cadeau nuptial donc sur la croix donc que donc, que le Christ a mérité à l'Église qui lui a confié. Et donc, l'Église seule, donc, en tant que dépositaire, donc, peut en exposer sa théologie, ses rites, les défendre, les exposer et les réaliser. En tant que don de Dieu, donc, la liturgie est soumise au fameux développement organique, hein, dont je vous avais parlé, hein, à travers le temps, qui caractérise toute réalité qui est don divin, qui est don de Dieu, hein, vous vous souvenez, hein. Et où convergent l'éternité de Dieu et le temps, analogue donc au mystère donc de l'incarnation. L'Église donc en tant que telle est dépositaire et gardienne du mystère de la messe, éclairée par l'Esprit Saint qui lui a été promis, et elle doit donc protéger et favoriser le développement homogène de la liturgie. Mais elle n'a aucun pouvoir pour créer un rite, car la liturgie authentique ne peut être que don de Dieu. Elle n'en est que la gardienne, la dépositaire, et puis le garant de son développement homogène dans le temps. A fortiori, en dehors de l'Église, aucune institution politique ou même religieuse n'a autorité sur la liturgie. D'accord ? Alors ça, je développerai dans le chapitre suivant, quand je parlerai de l'importance du chaise apostolique dans le développement organique, en fait, hein, de la liturgie. Puisque l'intégrité de la vérité n'a été promise qu'à Pierre, et donc il y a un lien pour le développement de cette vérité à travers la liturgie. Hein. On verra ça dans le chapitre suivant. D'accord ? Maintenant, donc, je vais passer au point suivant. La messe et la présence réelle de Dieu. Il n'y a pas de questions, non ? Bon. La messe, c'est la présence réelle de Dieu. Alors, la présence réelle découle... Alors, oui, aussi, en passant, oui, je ne reprends pas les propriétés dans le même ordre qu'exposé par le Concile Vatican II. Hein. Bon, ce n'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est... bon, mais bon. Alors, la messe découle directement du noyau central... La présence réelle découle directement du noyau central de la messe. En effet, quel est ce noyau ? C'est la double consécration du pain et du vin, donc qui donne le corps et le sang du Christ. Et de cette double consécration, bah, vous avez la présence réelle. Dès qu'il y a consécration, il y a présence réelle. Donc, par la double consécration séparée du pain et du vin, la messe et le sacrement, donc du Golgotha, ce qu'il a défini, et la première conséquence immédiate, donc, en est la présence réelle sous les espèces du pain et du vin. D'où l'expression donc, de Saint-Sacrement, donc de l'autel, comme je vous le disais tout à l'heure, en tant que les hosties consacrées sont conservées dans le tabernacle, qui est l'autel, qui est sur l'autel, et où sont, sont donc le sacrement de la présence de Dieu, de la plus haute présence de Dieu en ce bas monde. Il n'y a pas de plus haute présence de Dieu que cette présence réelle sur le Saint-Sacrement de l'autel. Et qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est dans la continuité du mystère de l'incarnation. L'expression donc ne désigne pas directement donc la messe, mais est sa conséquence première et directe, qui lui est intrinsèquement liée. Dès qu'on célèbre la messe et donc on a réalisé donc ce noyau, ben il y a présence réelle, c'est automatique. Donc la consécration donc, du pain donc, en corps et sang du Christ est directe, automatique. Le très saint sacrement de l'autel donc, désigne donc, cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, pendant la messe et aussi dans le tabernacle qui est juste donc, au-dessus de l'autel une fois que la messe donc, est terminée et donc qu'on y range donc, les saintes espèces, donc, les saintes hosties. Alors, parmi ces nombreuses propriétés qui se sont explicitées et développées donc dans le temps. L'Eucharistie donc s'est aussi manifestée comme le très saint sacrement donc de l'autel dans le culte eucharistique. La prise donc de conscience de la présence de Dieu dans l'Eucharistie, qui constitue donc le mystère des mystères en ce monde après le retour de Jésus-Christ au ciel, a amené l'Église donc à rendre aux très saintes espèces, un culte de latrie. Latrie, c'est-à-dire reconnaissance de la divinité. Et c'est pour ça donc, que devant le Saint-Sacrement, on fait une génuflexion. Il y a la présence de Dieu qui est là. D'abord donc dans la Sainte Réserve Eucharistique, puis dans l'exposition du Saint-Sacrement, comme on le fait par exemple le dimanche soir, après les vêpres, et puis aussi dans la procession du Saint-Sacrement, donc lors de la fête Dieu. C'est la fête donc de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu dans notre monde. Alors là, il y a... C'est ça. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Ceci est bien exposé. C'est au numéro... 1378 et suivant. Le catéchisme dit « Le culte de l'Eucharistie. Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux et en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. » En effet, quand on fait par exemple, on expose le Saint-Sacrement sur l'autel, non seulement on s'agenouille, mais aussi on fait une inclination, en fait, une prostration. L'Église catholique a rendu et continue à rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité, en les portant en procession. La sainte réserve, tabernacle, était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Ça, c'était au début de l'histoire de l'Église. Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. C'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être construit de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Puis au numéro suivant, donc toujours du catéchisme de l'Église catholique, il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette façon unique. Puisque le Christ allait quitter les siens sous la forme visible, il voulait nous donner sa présence sacramentelle. Puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver, il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous, comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Et il le reste sous le signe qui exprime et communique cet amour. L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. Et puis dans le numéro suivant, 1381, la présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, où on ne l'apprend point par les sens, nous dit saint Thomas, mais par la seule foi, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, commentant le texte de saint Luc, chapitre 22, verset 19, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Saint Cyrille déclare, « Ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi la parole du Seigneur, parce que lui est la vérité et il ne ment pas. » Voilà. Voilà ce que nous enseigne donc le catéchisme de l'Église catholique. Alors toujours dans ce passage donc sur la présence réelle, on peut dire que la présence eucharistique est préfigurée par la présence de Dieu dans sa parole. L'arche sainte dans la synagogue, lieu qui est le lieu, l'armoire, où est conservé les livres de la Sainte Écriture, de la Torah, joue le rôle du tabernacle dans l'Église. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une synagogue. En fait, quand on rentre, le lieu sacré, le lieu vraiment mis en évidence, c'est le lieu où est conservée la Torah, et qui est donc le lieu donc, de la présence de la Sainte Écriture, et qui joue donc un peu le rôle donc, dans la synagogue, pour nous, du tabernacle. En effet, la parole est agissante, aimante, et n'a pas seulement un contenu intellectuel. Et c'est exprimé donc dans cette présence, en fait. On retrouve donc ce culte de la parole chez les protestants, qui montre que le culte dans les temples protestants est un retour en arrière, en fait. Ayant perdu la présence réelle du tabernacle, le protestantisme s'est raccroché à la présence de Dieu dans les saintes Écritures qui trônent donc aussi dans les temples. Dans le refus de l'adoration de la présence réelle, en fait, il y a un refus du mystère de l'incarnation et de l'union hypostatique dans le prolongement dans l'Eucharistie tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, les protestants, en refusant d'adorer derrière les espèces eucharistiques la présence réelle, et donc ne reconnaissant qu'une présence spirituelle, en fait commettent la même erreur que les juifs qu'il y a 2000 ans refusaient de voir dans l'humanité du Christ la présence aussi de Dieu incarné. Alors bien sûr, c'est pas évident derrière un homme de dire qu'il est Dieu. Mais il n'empêche que c'était tout le mystère de l'incarnation, donc de Jésus-Christ qui était là en fait. Hein. Et actuellement, les protestants commettent la même erreur par rapport à l'Eucharistie que les juifs ont commis il y a 2000 ans. Enfin, les juifs qui ne sont pas convertis, parce que la Vierge Marie, les apôtres et puis tous ceux qui sont baptisés, par contre, eux l'ont reconnu. Et donc les protestants commettent la même erreur. Et c'est le drame, en fait, du protestantisme. C'est d'avoir, donc, reproduit le même type d'erreur. Mais, et donc, de s'être reporté sur la parole, tout comme font les juifs, justement, qui ont perdu en plus le temple, en mettant en valeur donc la Torah dans leur synagogue. Alors en effet, ce qu'on peut se demander, donc si le Dieu transcendant a pu s'incarner et s'immoler, donc sur la croix, comme le croient en fait les protestants, hein, et puis aussi, donc, ce Dieu peut s'incarner aussi dans la parole comme le croient les Juifs. Comment lui serait-il impossible de diffuser dans le temps ce double acte, donc de son incarnation et de son immolation, qui s'inscrit donc dans l'éternité? Cette diffusion donc se réalisant par la présence réelle au tabernacle et par le saint sacrifice donc de la messe. Et donc là, il y a une incohérence en fait, hein, des juifs et des protestants. Alors sur le problème donc de la présence par rapport à la parole, le père Bouillier des choses intéressantes dans son livre l'Eucharistie, je voulais déjà citer, hein, à la page 38-41. Les hommes n'ont pas commencé à parler pour faire des cours ou des conférences. Ça, c'est tout à fait l'humour du père Bouillier. Donc, les hommes n'ont pas commencé à parler pour faire des cours et des conférences. Et Dieu, en nous parlant, ne se fait pas professeur de théologie. L'expérience première de la parole humaine est celle de quelqu'un d'autre qui entre dans votre vie. Et l'expérience encore fraîche et déjà complète, en un sens, de la parole divine, au terme de l'ancienne alliance, c'était celle d'une intervention analogue, mais infiniment plus saisissante, encore plus vitale. L'intervention du Dieu Tout-Puissant dans la vie des hommes. Écoute Israël, ce fameux schéma Israël, écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voici, pour le juif, non seulement le résumé de toute la parole de Dieu, mais la parole de Dieu la plus typique. Dieu y fait irruption dans notre monde pour s'y imposer à nous par sa présence, devenue comme tangible. Donc, ce qu'il veut dire, donc, si Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous faire un cours de haute théologie, mais c'est pour se rendre présent au milieu de nous, à travers sa parole. Comme nous, en parlant à un ami, on est présent à un ami. D'accord ? On est présent par notre parole, par notre échange de parole. Mais c'est à chaque page de la Bible que la parole divine se définit, ou mieux se manifeste ainsi. Ce n'est pas un discours, mais une action. L'action par laquelle Dieu intervient en maître dans notre existence. Le lion a rugi, dit Amos. Amos, c'est le prophète, hein, un des prophètes de l'Ancien Testament. Le lion a rugi, dit Amos, qui ne craindra, le Seigneur a parlé, qui ne prophétisera ? Ce qui signifie que la parole, dès qu'elle se fait entendre, prend possession de l'homme pour réaliser son destin, son dessein. Isaïe, de son côté, dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. » Pour Israël, non seulement la parole divine, comme toute parole digne de ce nom, est action, intervention personnelle, présence, qui s'affirme et s'impose, mais étant la parole du Tout-Puissant, elle produit par sa propre vertu ce qu'elle annonce. Dieu est vrai, non seulement en ce sens qu'il ne ment jamais, mais en ce sens que ce qu'il dit est la source de toute réalité. Il suffit qu'il le dise pour que cela se fasse. La parole donc de Dieu en Israël a comme son corrélatif la connaissance de Dieu, puisque Dieu en agissant donc se rend présent, et donc par cette présence on connaît Dieu. Il est bien vrai que cette connaissance n'est pas affaire d'abstraction, ce n'est pas une connaissance théorique, hein, mais elle n'en est pas moins connaissance, pour cela au sens le plus riche dont le mot soit susceptible. La connaissance de Dieu qui résulte de la parole, qui est son fruit par excellence, connaissance dont Dieu sera l'objet, procède elle-même d'une connaissance antérieure à la parole et qui s'y exprime, la connaissance dont Dieu est le sujet. La première, donc, ne procède et ne peut se comprendre qu'à partir de la seconde. C'est-à-dire, donc, Dieu se rend présent, et c'est à partir de cette présence que nous connaissons Dieu. C'est ça que veut dire le père Bouillet. La connaissance de Dieu, donc au sens radical de la connaissance que Dieu a de nous, est tout autre chose qu'une simple omniscience, pas impassible et simplement contemplative. Dans la Bible, pour Dieu, connaître un être, cela veut dire s'intéresser à lui, s'y attacher, l'aimer, le combler de ses dons. Et c'est de la même façon, donc, c'est donc en nous intéressant à la connaissance de Dieu que par sa présence donc, nous rentrons donc, en communion avec Dieu et que nous le connaissons vraiment. Et donc là aussi, ce n'est pas une connaissance donc, théorique, intellectuelle, mais c'est une connaissance, donc, je dirais, fruitive en fait, tout comme par la compagnie d'un ami en fait on le connaît par sa présence et puis en le côtoyant en vivant avec lui etc en fait hein, c'est une connaissance pratique en fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans la parole, donc, c'est Dieu qui se donne lui-même, qui est donc présent dans cette parole, et donc que nous pouvons connaître, parce que présent dans cette parole, que nous écoutons. D'accord ? Ce qui est dit de la parole de Dieu peut être transposé à un degré plus profond et plus intense pour ce qui concerne l'Eucharistie, comme présence réelle de Dieu. L'Eucharistie, donc, en tant que rendant présent le sacrifice de la croix, est le summum de l'amour parfait. D'accord ? Il est donc présence de Dieu qui est amour parfait. Et donc, l'expression achevée en ce monde de ce que l'on peut dire et connaître de Dieu. D'accord ? Donc, c'est à travers le saint sacrifice de la messe que Dieu se révèle à nous au maximum, là, aujourd'hui, comme il l'a fait, comme Jésus l'a fait du haut de la croix il y a 2000 ans. C'est le summum de la révélation. Si vous voulez, toute la révélation de l'Ancien Testament, toute cette montée, aboutit à cette explosion d'amour qu'est le Saint Sacrifice, dans lequel Dieu se révèle. Et ceci donc nous est transmis donc à travers le temps, à travers donc le Saint Sacrifice de la messe. L'Eucharistie, donc, en tant que rendant présent le sacrifice de la croix et le summum de l'amour parfait, il est donc présence de Dieu qui est amour parfait et donc expression achevée en ce monde de ce que l'on peut dire et connaître de Dieu. Dans l'adoration eucharistique, on connaît Dieu qui est réellement présent et qui se communique à nous dans cet acte totalement gratuit de l'adoration qui nous fait participer donc à l'amour de Dieu. Quand nous adorons dans Dieu, nous faisons un acte totalement... On reste là devant, une hostie qui est exposée. C'est le summum de la gratuité. Et donc, on rentre dans ce mouvement d'amour de Dieu. Donc, et on connaît Dieu, je dirais, par connaturalité, qui est le summum donc, de la connaissance. Dieu vient... D'accord ? D'autant plus que la connaissance, comme je vous l'ai déjà expliqué donc, il y a pas mal de mois, la connaissance a une dimension sponsale. En effet, qu'est-ce que la connaissance ? C'est la présence du connu dans le connaissant, qui lui-même devient le connu. Hein, c'est la définition classique de la connaissance. Et donc la connaissance est union transformante, puisque le connaissant devient le connu par sa présence en lui. Et donc la connaissance est union transformante, et donc par la connaissance de Dieu, par la contemplation de Dieu, donc il y a un phénomène de divinisation. Nous nous divinisons. Le très saint sacrement de l'autel est un effet direct de la sainte messe, un effet voulu par notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer le mystère de la messe. Par sa présence amoureuse qui continue à se donner à nous donc dans la Sainte Messe et puis aussi par la contemplation donc lorsque le Saint-Sacrement est exposé. Et puis un dernier point que je vais exposer donc sur cette propriété donc de la présence réelle. Il n'y a présence réelle que parce qu'il y a sacrifice. Car s'il n'y avait pas eu le sacrifice de la croix, il n'y aurait pas eu donc l'incarnation, c'est la thèse de saint Thomas. L'incarnation, en effet, n'est pas une visite touristique de Dieu dans sa création, mais l'incarnation est réalisé en vue de la rédemption. Le Christ a pris ce corps passible pour pouvoir l'immoler sur la croix. Donc l'incarnation, dans toute sa profondeur, est finalisée donc vers la rédemption. Donc la présence réelle qui s'inscrit, donc Dieu s'est incarné en vue donc de la rédemption. La présence réelle qui s'inscrit donc dans la continuité du mystère de l'incarnation, c'est ce que je vous disais. Les deux, donc, rendant présent réellement Dieu au milieu de nous, donc la présence réelle et l'incarnation. Donc, la présence réelle est reliée, elle aussi, au sacrifice de l'autel, comme à sa fin. C'est en tant que Jésus-Christ se rend présent réellement sous les deux espèces du pain et du vin qu'il y a sacrifice. Donc Jésus donc, se rend présent réellement sous les deux espèces pour réaliser sacramentellement un réel sacrifice, d'accord ? Et si cette fin n'avait pas été réelle, s'il n'y a pas eu cette fin de réaliser le sacrifice, la messe aurait pu ne se constituer uniquement que par la consécration du pain. Si on avait voulu qu'il y ait simplement la présence réelle et non pas le sacrifice, donc qui est la fin, on pouvait uniquement faire la consécration du pain. Par la consécration du pain, dans chaque hostie, Dieu est totalement présent. D'accord ? Et donc, on aurait pu, donc Dieu aurait pu continuer donc sa présence au milieu de nous, de sa, toute sa divinité, etc., par la simple consécration du pain. Mais non, Dieu a voulu qu'il y ait consécration du pain et du vin. Parce que la fin de la consécration, c'est le saint sacrifice. D'accord ? Et donc, la présence réelle, elle est finalisée au saint sacrifice. C'est ce que je voulais vous démontrer. D'accord ? Si la présence réelle était donc la fin ultime, hein, comme je vous dis, la seule consécration donc, du pain était suffisante. Hein, voilà. S'il y avait eu consécration uniquement du pain, cela aurait signifié que Jésus voulait réaliser uniquement la continuité de sa présence réelle. Le fait donc que Jésus ait voulu la double consécration montre bien que ce qui est visé en premier par notre Seigneur Jésus-Christ est la réalisation du Saint-Sacrifice et qui est donc vraiment l'essence de la Sainte Messe. D'accord ? Car c'est ce qui est voulu en premier par Jésus-Christ et dont le premier fruit merveilleux est bien sûr sa présence réelle, qui en est donc une conséquence directe, inséparable et donc une propriété essentielle. Hein. La présence réelle est une propriété essentielle, ce n'est pas l'essence. D'accord, hein. Alors là, je vais vous lire un passage qui est tiré d'un texte de Pie XII et qui montre ceci. Alors, 250... C'est un discours de Pie XII du 22 septembre 1956 au Congrès international de pastorale liturgique. Pie XII écrit la chose suivante, qui a priori peut paraître surprenant, mais qui illustre bien ce que je viens de dire. L'autel l'emporte sur le tabernacle. C'est surprenant, hein ? Bon, l'autel, l'emporte sur le tabernacle. Et Pie XII explique la chose suivante. Parce qu'on y offre, donc sur l'autel, on y offre le sacrifice du Seigneur. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Hein, là. Alors il continue. Le tabernacle possède sans doute le sacramentum permanens, le sacrement permanent, mais il n'est pas un altare permanens, un autel permanent. Parce que le Seigneur ne s'offre en sacrifice que sur l'autel, pendant la célébration de la Sainte Messe, et non pas après ni hors de la Sainte Messe. C'est d'abord par le sacrifice de l'autel que le Seigneur se rend présent dans l'Eucharistie, et il n'est au tabernacle que comme memoria sacrifici et passionis sui, comme mémoire de son sacrifice et de sa passion. Là, donc c'est Pie XII qui l'enseigne, donc c'est en 1956. D'accord ? Donc c'est pour ça que, vous voyez, là, ça monte. Il faut bien mettre les choses en ordre. Hein. Chaque chose a sa place. Dans l'univers, dans le cosmos, chaque chose a sa place. Et puis si quelque chose n'est pas à sa place, bah, poum, ça fait boum, hein, d'accord ? Donc là, bah, c'est la même chose. Et quand les choses sont bien en place, ça donne toute une dimension contemplative hein, à la vérité théologique. Hein. C'est voilà. Bien. Bien. Bon, on continuera la semaine prochaine, enfin non, dans deux semaines. Là, c'est dans deux semaines sur donc les propriétés donc suivantes de l'Eucharistie, qui sont importantes. Vous voyez, c'est important hein, de bien préciser ces choses, voilà, et qui complètent donc la définition de la Sainte Messe. Est-ce qu'il y a des questions? Vous aviez peut-être des questions sur le dernier cours.
C'était juste, je voulais être sûre de bien comprendre.
Oui.
Vous avez parlé, comme une notion très importante, de la relation de la créature à Dieu, et puis la relation de Dieu à la créature.
Tout à fait.
Et la relation de Dieu à la créature, c'est une relation de raison.
De raison, c'est ça. Alors, ça c'est typiquement du saint Thomas. Saint Thomas, dans ses articles, en général, dit « distinguo », « je distingue ». Et là, il distingue La relation donc, de raison, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réelle.
Ouais.
Et en fait, c'est parce que, et ce qu'il faut bien comprendre en arrière-fond, c'est que quand Dieu engendre son Fils, la relation est réelle. Parce que sans le Fils, il n'y a pas le Père, et donc sans le Père, il n'y a pas le Fils, et donc il n'y a pas non plus le Saint-Esprit, donc Dieu n'existe pas. Ça, c'est réel. Quand Dieu crée, il n'engendre pas. C'est-à-dire que c'est un mouvement de son intelligence qui, à partir du néant, sachant que le néant, je ne sais pas si on en a parlé, sachant que le néant n'existe pas par définition, mais le néant est un concept fabriqué par l'intelligence pour raisonner sur l'être, qui est le concept fondamental en métaphysique. Et donc Dieu, par son intelligence, à partir de néant, qui est un concept produit par l'intelligence, que l'intelligence peut produire, crée l'univers. Et donc, on est au niveau de l'intelligence. C'est pour ça qu'on est au niveau donc, d'une relation de raison. Par contre, nous, mais pas une relation réelle. La relation réelle, elle est entre le Fils et le Père. Et puis après, et puis aussi le Saint-Esprit. D'accord ? C'est le mystère de Dieu. Hein ? Bon, j'essaie de vous expliquer au mieux, après... Bon, mais déjà, vous sentez un peu hein, que, pourquoi c'est de raison, parce que c'est la création, donc elle est un fruit de l'intelligence de Dieu. Et c'est pour ça donc, que Dieu, donc, fruit de l'intelligence, Dieu donc, élabore les différents concepts que sont les différentes essences dans notre monde, l'essence de l'homme, l'essence de tous les animaux, etc., tout ce qui existe en fait, hein, qui sont le fruit de son intelligence. Et cette relation est une relation de raison. Et puis, il veut que cela soit, et donc ça c'est le fruit de sa volonté, et c'est l'être. Et c'est pour ça que l'être est quelque chose de mystérieux en fait. Et que l'union en fait de l'être et de l'essence, ça reste un mystère métaphysique. Qui n'empêche, nous donne la réalité. Hein. Toute réalité en ce monde est une union d'une essence et de l'être. Et ça c'est et là on rentre dans les profondeurs métaphysiques. Et en niant cela, en fait... Ben, on a abouti en fait à la catastrophe, on a abouti à la destruction de la métaphysique en fait classique, avec toutes les conséquences que ça. Par contre, comme nous dépendons constamment, à tout instant, chaque milliardième de seconde, constamment de Dieu, notre relation elle est réelle, hein, donc c'est pour ça, oui. Voilà. C'est bon. Donc oui. Vous voyez, votre question était importante. Et en effet, voilà, ça permet peut-être même pour les autres aussi de mieux comprendre. Et c'est fondamental, ça. C'est un truc typiquement de saint Thomas, ça. On est typique dans le thomisme, en fait. Cette distinction de relation de raison et relation réelle dans la relation donc, de Dieu à la créature et de la créature à Dieu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Le sculpteur existait avant.
Dans la raison.
Il existera après sa sculpture. Il n'a pas besoin d'elle du tout pour.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Pourtant, pour être sculpteur, il faut bien qu'il y ait une sculpture.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'image exactement de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. La relation entre Dieu et la création. Elle est analogue à la relation du sculpteur à sa sculpture. Donc c'est pour ça que votre image est intéressante aussi, pour expliciter ce genre de ça. Oui. Mais là, comme on parlait de la création, donc c'est pour ça que je suis remonté au créateur, c'est pour ça. Mais c'est intéressant, en effet, tout à fait, tout à fait. Bien. Bon, ben nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais arrêter.